Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie, dans sa série consacrée aux grands éditeurs français, a le plaisir de recevoir Virginie Segers, fille de Pierre Segers, et Bruno Doucet, ancien directeur des éditions Segers et actuellement et nouvellement directeur des éditions Bruno Doucet. À tous les deux, merci
Bonjour.
D'être là.
Bonjour.
Voilà, alors donc, Virginie Segers, une exposition va parler de votre père, de sa poésie, de son travail tourné dans ses éditions vers la poésie et de l'homme de sa vie. Alors, pourriez-vous nous indiquer les dates de cette exposition avec Bruno Doucet, le lieu de cette exposition ?
Cette exposition sera présente au musée du Montparnasse, qui est un lieu symbolique de la vie de Montparnasse et de ceux qui ont contribué à son rayonnement culturel. Elle aura lieu du 7 juillet au 7 octobre prochain.
Alors, on lit sur l'affiche de cette exposition « Éditeur, résistant, poète ». Bruno Doucet, vous avez été partie prenante de la préparation de cette exposition qui vient d'ailleurs faire écho à l'ouvrage que vous avez publié. Alors, parlez-nous de ce livre.
Oui, alors je suis l'auteur du catalogue de cette exposition qui se tient donc au musée du Montparnasse. Ce livre, je l'ai conçu en vérité comme un ouvrage un peu de référence sur Pierre Segers. Aussi curieux que cela puisse paraître, il n'y a eu que peu de publications sur Pierre Segers, auteur et éditeur. Lui-même avait rédigé dans les années 60 un poète d'aujourd'hui, Pierre Segers par lui-même, mais il date de 1964, si ma mémoire est bonne. Donc, évidemment, il ne prend pas en compte toute cette période importante de sa vie pendant laquelle il a été véritablement écrivain, essayiste, poète. Et puis, il y a eu ensuite deux livres de Colette Segers, dont l'un est toujours édité, n'est pas épuisé. Il s'intitule « Pierre Segers, un homme couvert de noms », publié, réédité récemment aux éditions Segers. Mais en dehors de ces ouvrages, rien, si ce n'est quelques numéros spéciaux de revues. Donc j'ai pensé qu'il fallait rendre hommage à ce grand écrivain qui m'a au demeurant tellement, tellement marqué dans mon parcours personnel.
Virginie Segers, comment êtes-vous intervenue dans ces deux actualités conjointes, l'exposition et le livre qui accompagne cette exposition?
Vous l'imaginez, j'ai été évidemment étroitement associée aux deux, avec émotion d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai l'occasion de me plonger dans la mémoire de mon père, qui m'a eu très tard. Il avait plus de 60 ans quand je suis née. Il aurait donc pu être mon grand-père. J'ai eu la chance d'être sa fille. Et j'ai souhaité pouvoir retracer sa vie d'homme. Pas seulement le poète, l'éditeur, mais donner aussi une dimension personnelle, très humaine, très affective aussi à cette exposition. Et c'est pour cette raison qu'elle retrace, j'ai envie de dire non pas de son enfance ou de son adolescence, mais à partir de sa rencontre avec son maître en typographie, en édition, Louis Joux, qui a été vraiment une figure déterminante pour Pierre, une sorte de père spirituel de substitution, mais aussi vraiment un maître dans cette relation du maître à l'apprenti dans son atelier. Donc de Louis Joux jusqu'au Festival de poésie de la ville de Paris et à la Maison de la poésie qu'il a dirigé à la fin de sa vie. Tout ce parcours dédié à la poésie, et c'est pour cette raison qu'on a choisi ce titre, Pierre Segers, Poésie, la vie entière. La poésie, non pas celle de laboratoire, non pas celle d'universitaire, mais celle d'un chant profond, d'un cri qui habite l'homme.
Alors justement, avant d'entrer dans le cadre de cette série d'émissions consacrées aux grands éditeurs, quelques mots essentiels sur l'homme qui a été votre père, sur cette relation particulière à Pierre Segers, que vous seul pouvez avoir vécu.
Écoutez, moi j'ai une relation très tendre. Il avait donc 63 ans quand je suis née, donc il y a vraiment une longue vie derrière lui, que je n'ai pas connu, que je n'ai pas partagé. Et Pierre était foncièrement tourné vers l'avenir. C'était un homme d'action. Il avait une devise qu'il répétait à l'envi qui était « si je n'entreprends pas, je meurs ». Et donc on était dans ce projet. En même temps, je crois que je voyais bien à la maison les deux facettes de sa personnalité, ce clair-obscur qui n'a cessé de l'habiter. À la fois un homme qui se levait très tôt le matin, vers 4h du matin, qui travaillait à sa table de bois, une table très simple, faite de deux tréteaux et d'un grand plateau de chêne. Sa table qui ne l'a jamais quittée depuis la résistance à Villeneuve-les-Avignon et qu'il a eu après aux éditions, puis à la maison. Il travaillait jusqu'à peut-être 7-8 heures du matin. Ensuite, on le voyait émerger, sortir de son bureau, parler du quotidien, me conduire à l'école. Et ensuite, il s'enfermait à nouveau. Et la vie était ponctuée comme ça d'un rituel d'enfermement, de solitude. Et puis tout à coup, d'un homme joyeux, tourné encore une fois vers des choses de la vie, parlant assez peu de son travail, assez peu de la résistance des poètes, des sujets parfois très douloureux dont il traitait dans ses livres, quand il travaillait par exemple à l'anthologie des poètes maudits ou à l'anthologie de la résistance et ses poètes. Et donc moi je voyais un homme enthousiaste qui ouvrait volontiers le soir ses portes à des amis comédiens, peintres, musiciens, autres. Et donc on était dans une sorte d'enthousiasme partagé, alors qu'il y avait aussi un homme taiseux, je ne dirais pas taciturne, mais tourmenté. Dont ce visage n'était pas forcément très perceptible en dehors d'un cercle familial, mais qu'on retrouve évidemment dans ses textes et dans ses poèmes.
Vous étiez fille unique, Virginie, oui. Et donc on peut parler de père présent dans votre vie.
Père très présent, parce qu'il travaillait à la maison, et donc on avait la chance de se voir le matin, j'ai envie de dire aussi souvent au déjeuner et le soir, ce qui est assez rare dans les familles. Il aimait, ça peut vous sembler curieux, mais beaucoup les mathématiques. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de Pierre me faisant travailler les mathématiques et la géométrie qui le passionnait. Il m'inventait aussi des dictées dont j'ai gardé certains des textes. Donc il m'inventait des textes et c'était vraiment une jolie relation très affectueuse.
Est-ce qu'il a voulu vous transmettre un héritage avec quelques mots vous le disiez tout à l'heure, hein, vous avez dit entreprendre, si je n'entreprends pas, je meurs. Est-ce qu'il y a une autre phrase comme ça qui vous a servi dans votre développement personnel ?
Alors, il est vrai que celle de l'entrepreneur m'a marquée et m'a conduite dans une vie assez éloignée de la poésie à entreprendre aussi sans pour autant renoncer à la poésie que j'ai retrouvée. Et là, c'est en effet peut-être les gènes qui parlent en écrivant et en composant des chansons.
Puis, je me permets d'intervenir, mais simplement pour citer cette phrase qui est une variante de celle que vous évoquiez il y a un instant, « Si tu ne penses qu'au frein, vends la voiture ». Je trouve que cette phrase de Pierre Segers illustre parfaitement.
Alors justement, Bruno Doucet, comment avez-vous conduit les éditions Pierre Segers aux côtés de Pierre Segers ?
Alors moi, malheureusement, je n'ai pas travaillé aux côtés de Pierre Segers puisque j'ai pris la direction de la marque Segers au début des années 2000 jusqu'en 2009. Voilà, mais ça a été, je dois dire, j'y pensais en écoutant Virginie Segers il y a un instant. Une absence-présence étonnante. Je me souviens vraiment très bien, dès les premières semaines, dès les premiers mois de mon travail aux éditions, j'avais le sentiment que Pierre Segers était avec moi. Pourtant, j'étais dans des locaux qu'il n'avait pas connus, avenue Marceau. Bien du temps s'était écoulé depuis sa disparition, mais j'avais ce sentiment très étonnant d'avoir parfois Pierre Segers derrière moi, me dictant presque ce que je devais faire dans les moments d'interrogation et de doute. Par exemple, dans le choix des auteurs à publier. Je continue à avoir ce sentiment d'une présence, la présence d'un homme que je n'ai pas connu physiquement.
C'est dire à quel point son empreinte...
Oui. Mais vous savez, je crois qu'il y a peut-être que la quintessence de la littérature, c'est cette énergie qui passe et qui perdure à travers les textes. Pierre Segers lui-même le disait, lisant les quatrains d'Omar Rayam, ce poète de la Perse avec lequel il a cohabité finalement toute sa vie. Il y a une énergie qui circule dans les œuvres. Et vous savez, pour l'écrivain, pour l'éditeur, la mort n'est pas la mort. Hein, c'est bien évident. il y a tant de choses de lui qui continuent à vivre aujourd'hui que finalement son absence est une présence diffuse, mais souvent, je dirais, très perceptible.
Alors écoutez, nous invitons les auditeurs de Canal Académie à suivre les pas de Pierre Segers à travers cette exposition à laquelle nous les invitons de se rendre du 7 juillet au 7 octobre au musée du Montparnasse, mais également à travers les lignes de votre livre et puis au cours de cette émission qui souhaiterait reprendre les grandes lignes tracées dans votre livre et dans cette exposition. Alors, il y a quatre grands axes que vous nous avez indiqués. Le premier axe étant celui de la période de l'apprentissage. Apprendre, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, Virginie Segers, avec Louis Joux. Qui était ce Louis Joux ?
Alors, Louis Joux est un Catalan qui a découvert le monde de l'imprimerie et de la typographie dès son plus jeune âge en étant apprenti. Je crois dès l'âge de 12 ou 13 ans, il était apprenti chez un grand éditeur barcelonais. Il viendra ensuite s'installer à Paris et au Beau de Provence et il va devenir l'un des grands architectes, peut-être même le dernier grand architecte du livre, au sens où il réalisait ses livres à l'ancienne, allant jusqu'à fondre le plomb pour créer ses propres caractères et le faisant pour chaque livre. Voilà, c'est un artisan, un artiste, un orfèvre du livre, graveur, imprimeur, typographe de génie. Et Pierre Segers disait « Certains hommes, on leur doit tout, on ne le sait pas immédiatement, mais la vie vous l'apprend ». Et lui reconnaissait de voir pratiquement tout à Louis Joux qui lui ouvre les portes du livre et de cette liberté qu'est la création littéraire.
Alors donc, Pierre Segers est né en 1906. Oui. Sa rencontre avec Louis Joux s'effectue à quel âge ?
Au début des années 30.
Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Louis Joux va être cette figure paternelle puisque Pierre... perd son propre père à peu près au même moment que la rencontre avec Joux. Et Joux lui transmet non seulement l'amour du livre, l'amour des caractères, l'odeur du papier, celle de l'encre, le goût de l'atelier, qu'il ne le quittera plus jamais, parce qu'il aimait aller chez les imprimeurs, il aimait choisir ses papiers. Je vous disais tout à l'heure, moi je n'ai pas connu la période de l'édition, mais je me souviens, Pierre aimait tout faire quand il réalisait des spectacles de poésie dans des grands théâtres parisiens. Il choisissait les caractères des affiches, il choisissait le papier, c'était très étonnant. Et je pense que ça lui venait profondément de Joux. Et un autre héritage de Joux, c'est cet amour profond des poètes de la Perse. Omar Khayyam, Saadi, Hafiz. Et Bruno Doucet disait tout à l'heure que ces poètes l'ont accompagné toute sa vie. Et c'est vrai parce que d'abord Pierre avait rédigé à la main sur un petit carnet des roubaïates d'Omar Khayyam qu'il avait mise dans son portefeuille. Et ce portefeuille et ces roubaïates donc ont toujours été dans sa poche et pendant la guerre, et jusqu'à la fin de ses jours. Et puis il a consacré près de 9 ans de sa vie à adapter les grands poètes de la Perse. Ça, c'était une période que j'ai connue. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'il avait à la maison, puisqu'il ne parlait pas la langue, il n'était pas vraiment un traducteur, mais un adaptateur, il faisait venir à la maison à la fois des diseurs pour s'imprégner du rythme de cette poésie, et aussi des musiciens, des sitaristes notamment. Et c'est pour cette raison, je crois, que l'on reconnaît que ces adaptations sont exceptionnelles.
Et tout commence en fait avec un livre que Louis Joux lui offre, un exemplaire unique, rarissime, que Louis Joux lui offre à ce jeune homme lors d'une de ses visites, justement les Roubaïates d'Omar Khayyam, une édition de l'imprimerie impériale. Voilà.
Et comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette sensibilité par rapport à ces auteurs
Alors, il faut dire que Pierre Segers est issu d'une longue lignée d'artistes. Son père était inventeur de papier photographique, son grand-père sculptait le chêne et le noyer des églises. Il y a encore des stalles signées de ce grand-père, je crois à Tolède notamment. Voilà. Et puis, si on remonte alors beaucoup plus loin, dans la Flandre du XVIe siècle, il y a de très grands noms de peintres qui se nomment Segers. Hercule Segers, Daniel Segers, le peintre des fleurs, voilà. Je crois que Pierre Segers avait une conscience très claire de ses origines et de cette dimension artistique.
Mais la guerre va éclater et va donc précipiter ce jeune poète vers un certain destin. Racontez-nous.
Je crois que c'est le moment où vraiment c'est extraordinaire, parce que c'est le moment où Pierre Segers change sa vie en destin. En septembre 1939, la guerre éclate. Je fais une parenthèse pour vous dire que pour Pierre Segers, comme pour bon nombre de poètes, la guerre n'a pas commencé en 1939, mais en 1936, avec la mort de Federico Garcia Lorca sous la mitraille fasciste. Mais en 1939, Pierre Segers est mobilisé à Nîmes. Il arrive à la caserne Valongue et il réalise qu'un autre grand poète est passé là une génération avant lui, dans des circonstances quasi similaires. Ce poète n'est autre que Guillaume Apollinaire. Et je crois qu'il y a là, c'est un révélateur profond pour Pierre Segers, qui va se dire, mais il faut faire de la guerre, de cette absurdité qu'est la guerre, quelque chose. Et dès les semaines suivantes, il crée aux armées une revue, la revue PC, entendez par là, non pas poste de commandement ou parti communiste, mais poète casqué, qui ralliera les poètes engagés dans la guerre, et parfois même des réfractaires, et puis bien vite des poètes emprisonnés dans les stalags ou déportés.
Alors, il paraît que l'un des premiers abonnés à Poète Casqué n'est autre qu'Aragon.
Oui, absolument.
Il y a d'ailleurs une très jolie anecdote à raconter, parce qu'Aragon reçoit un bulletin de souscription, d'abonnement à cette première revue. Aragon, à l'époque, est déjà quelqu'un de très connu.
Il est tout à fait connu.
Une référence. Oui. Et oui, il envoie donc un chèque à Pierre, et Pierre le lui renvoie en disant « D'un poète, on n'attend pas de l'argent, mais des poèmes ». Et Aragon, je crois, est touché par ce mot, cette franchise, et lui renvoie le manuscrit des Amants séparés. Et donc, il sera le premier à publier les Amants séparés, et on présente évidemment à cette exposition cette originale d'Aragon.
Donc, la poésie de résistance est née, Bruno Doucet.
Oui, la poésie de résistance est née. En langue claire, hein, même si par la suite Pierre Segers s'engagera aussi dans cette littérature et cette édition de contrebande pour déjouer les pièges de la censure. Dès l'année suivante, il crée une deuxième revue. Comme si la revue PC ne suffisait pas, il crée la revue Poésie, qui sera millésimée, Poésie 40, 41, 42, et qui deviendra dès 42, j'allais dire, une sorte de label éditorial, puisque Poésie 42 va publier des livres, notamment un livre intitulé « Pour les quatre saisons », où les quatre saisons, que sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, seront appréhendées, abordées par quatre poètes. Différents, André de Richaud, Pierre Segers, Pierre-Emmanuel, Héloïse Masson, un tout jeune poète venu de l'île Maurice, jeune homme fougueux pour lequel Pierre Segers aura beaucoup de tendresse, d'amitié, et qui deviendra, Héloïse Masson deviendra dès 1943 le secrétaire de rédaction de la revue Poésie à Villeneuve-les-Avignon, où se trouve alors Segers.
Des souvenirs attachés à cette période difficile de résistance et de guerre qui vous auraient été transmis, Virginie Segers ?
Quelques souvenirs en vrac. Par exemple, je me souviens que Pierre était toujours assez ému de retourner à Villeneuve-les-Avignon. Et il habitait près du Fort Saint-André et ses éditions étaient dans une tour qui était juste dans la montée du fort. Et bien après la période de l'édition, il avait recréé une sorte de petit label qui s'appelait les éditions de la Tour. Il était très attaché peut-être à cette hauteur de vue sur une époque en difficulté. Et puis un jour, je me souviens, nous nous promenions près de Villeneuve et des Angles, je devais avoir 7 ou 8 ans, et ça m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a dit, tu vois, par là un jour je me suis échappée. Et en fait, j'avais compris que la Gestapo venait le chercher. Et donc, heureusement, un ami l'avait prévenu, il avait pu s'échapper.
Après la guerre, que se passe-t-il ?
Alors, d'abord, avant la fin de la guerre, le 10 mai 1944, la date est très précise, paraît à Lyon, sur les presses de l'imprimerie du Salut Public, les bien nommés, le premier livre des éditions Pierre Segers, à savoir un livre consacré à Paul Éluard dans la collection Poète d'aujourd'hui, le fameux petit carré Segers, c'est le numéro 1, et je dois dire au passage que c'est peut-être l'un des premiers, sinon le premier livre de poche, 10 ans, près de 10 ans avant la naissance du poche, que l'on date toujours de 53,
donc Pierre
de février
Segers,
53.
C'est
un précurseur.
Un pionnier dans la matière.
Bien sûr, au point que les tailleurs parisiens créeront par la suite la fameuse poche Segers qui permet de glisser un livre de ce format dans sa veste.
Et si je peux me permettre, il y a le format qui est très original. Je crois qu'il y a la maquette aussi qui
bien
est
sûr
très moderne pour l'époque. Le prix, puisque c'est extrêmement accessible. Donc c'est un concept nouveau dans le paysage de l'édition. Et évidemment, le contenu.
Le fait tout simplement qu'un poète parle d'un poète. Nous sommes loin des approches austères, universitaires, techniques. Pierre Segers s'est fait finalement le chantre de l'écriture en empathie. Je crois que pour lui, tout commence toujours par une émotion. Il faut simplement avoir l'art de transmettre cette émotion de lecteur.
Mais une émotion qu'il veut accessible à tous,
oui,
puisqu'il offre ce format, comme vous l'indiquiez, à un prix modique. Enfin, il y a quelque chose de nouveau rapport à... Donc c'est un éditeur en réflexion par rapport à ses contemporains.
Et c'est un homme qui s'affranchit aussi de l'influence majeure qu'est celle de Louis Joux. Parce que Louis Joux, finalement, faisait des livres pour quelques-uns seulement.
Des livres d'art.
Des livres d'art à la main, comme les faisaient les moines du Moyen-Âge, vous voyez. Pierre Segers, au contraire, sera habité, littéralement habité, par la volonté de transmettre, de s'engager dans ce vaste processus de démocratisation de la culture, qui est, vous le savez, l'un des grands héritages de la résistance et de la libération.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce champ de résistance partagé avec tous ses compagnons de cette triste période qui a certainement ouvert devant lui cette possibilité de communiquer.
Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, il souhaite transmettre cette émotion et il devient rapidement un vrai entrepreneur, un homme de marché, parce qu'il va se poser la question de la diffusion de ses livres, des réseaux de libraires. Il va assez vite créer une maison de distribution à côté. Il est très soucieux de rendre accessible la poésie au plus grand nombre et conscient de préoccupations d'un chef d'entreprise. On le voit plusieurs fois d'ailleurs dans des émissions à la radio, à la télévision, s'exprimer sur la puissance du livre de poche, justement pour toucher le plus grand nombre, sur le fait qu'il y a un marché considérable à développer et que la poésie doit toucher les hommes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient.
Oui, je comparerais volontiers le Pierre Segers de cette époque d'effervescence éditoriale et littéraire à un jardinier qui ne se contente pas de semer plusieurs graines, mais qui va marcoter, greffer ou bouturer ses propres pousses. La revue PC donne naissance très rapidement à Poésie. Poésie devient un label éditorial, puis les éditions Pierre Segers. Dans le même temps, dès 44-45, il crée une revue que tout le monde a oubliée aujourd'hui, mais extraordinaire, qui est exposée au musée du Montparnasse, la revue America, qui est voué au dialogue entre la France et l'Amérique latine, publié en bilingue ou en trilingue, il n'oublie pas non plus le portugais. Puis America va disparaître en 47 après 5 numéros, mais Pierre Segers a déjà en tête d'autres collections, la collection PS qui porte ses initiales, et puis rapidement Poésie et chansons, la collection Autour du Monde, qui lui permettra de publier des poètes venant du monde entier.
Mais c'est énorme comme travail pour un seul homme. Alors vous parlez toujours à l'échelon individuel, Pierre Segers. Est-ce qu'il s'est entouré d'une équipe pour pouvoir concrétiser ces multi-activités dont vous nous parlez ?
Bien sûr, il avait une équipe, je crois, très fidèle autour de lui. Malheureusement, ils ne sont plus là. J'ai eu la chance de retrouver l'un d'entre eux qui est entré à 14 ans aux éditions Segers dès 44 et qui est encore en vie et qui me disait « Pierre, c'était l'énergie même, c'était impossible de lui résister, à la fois parce qu'il vous entraînait dans son sillage, mais parce qu'il n'aimait pas du tout non plus qu'on lui résiste. Je crois qu'il avait une puissance de conviction, une détermination à toute épreuve, un pas rapide que je lui ai connu, moi, bien plus tard, et rien ne l'arrêtait. Alors, heureusement, il avait cette équipe qui, je crois, en tout cas pour ses ses collaborateurs les plus proches, puis des directeurs de collection, ont été extrêmement fidèles, extrêmement présents.
Et puis des figures tutélaires, autres que Louis Joux, il y a celle d'Éluard, qui va jouer un rôle considérable dans l'élaboration, dans la conception de la collection Poète d'aujourd'hui, celle d'Aragon qui lui donne peut-être plus qu'un autre le sens de cette littérature de contrebande dans la clandestinité, et puis des figures comme celle de Max Jacob, bien sûr, qui mourra au camp de Drancy en 44. De Blaise Cendrars, qu'il considérait comme son parrain en édition. D'ailleurs, une anecdote, les couvertures de la collection Autour du Monde sont ornées d'un sablier, mais aussi d'une petite sirène, où l'on peut voir entrelacer les initiales de Pierre Segers. Et cette petite sirène rappelle tout simplement cette influence, puisque Blaise Cendrars était l'éditeur des éditions de la sirène.
Alors, homme de passion sans conteste, mais homme de pouvoir ?
Pour répondre à votre question, je dirais simplement à la manière de Claude Roy, qui était d'ailleurs l'un des grands amis de Pierre Segers, que la poésie est un pouvoir qui ne donne aucune puissance. Le pouvoir des mots, bien entendu, mais loin de la puissance du monde politique et économique.
Alors l'exposition au musée du Montparnasse et votre ouvrage, Bruno Doucet, nous indique que de Pablo Nureda à Fernando Pessoa, de la Chine au Groenland, Pierre Segers publiera de son vivant plus de 2000 poètes du monde entier.
Oui, c'est un découvreur. Dans la collection PS, qu'il lance au début des années 50, il fait alterner des inconnus et de très grands noms de la poésie. Alors vous avez Corps mémorable d'Éluard, vous y retrouvez Mao Tse-Tung, vous y retrouvez Neruda et tant d'autres, et puis des poètes qui ont 18 ou 20 ans, qui entre-temps, enfin parfois on ne connaît même plus leur nom aujourd'hui, ou certains sont devenus de grands noms et ils ont fait leurs premières armes aux éditions de Pierre Segers.
Alors comment tous ces contacts s'effectuaient-ils et est-ce que tous ces personnages circulaient chez vous, Virginie
Avant moi, certainement. Il a eu en effet des amitiés fortes, je dirais même indéfectibles, qui se sont nouées pendant la guerre, notamment avec Louis Aragon, même s'il y a eu une période un peu difficile au sujet du Parti communiste que Pierre a quitté assez tôt, avec Éluard, avec Cendrars, qui était en effet un ami très proche, avec Pierre-Emmanuel, qu'il appelait Noël, à la maison, dans l'intimité. Certains d'entre eux, j'ai eu la chance de les connaître, d'autres n'étaient plus là. Bruno Doucet évoquait Pablo Neruda, je ne sais pas comment il l'a rencontré, mais j'ai deux anecdotes à vous donner. La première, nous avons retrouvé dans des archives un film magnifique qui s'appelle Araya, qui a été réalisé par une femme qui s'appelle Margot Benaceraf, qui est vénézuélienne, qui est allée filmer en noir et blanc, c'est un film d'une beauté plastique exceptionnelle, très onirique, les mines de sel du Venezuela. Et elle avait confié à Pablo Neruda d'écrire un texte. Et j'ignore pour quelle raison, mais Pablo Neruda a refusé et lui a dit « Moi, je ne connais qu'un homme qui pourrait écrire ça, c'est Pierre Segers ». Et donc, Pierre a écrit le texte qui est dit par Laurent Derzieff. Autre anecdote au sujet de Pablo Neruda, j'étais enfant, nous déjeunions de temps en temps chez Lippe. Pierre aimait bien cet endroit. Et maman voit Pierre arriver bouleversé. Et il lui dit « Écoute, je viens de recevoir un message d'outre-tombe ». Et il avait à la main une lettre rouge, une enveloppe rouge, écrite sur du papier rouge. Et c'était une très belle lettre de Pablo Neruda, mais qui avait été confiée à un ami, qui l'avait peut-être égarée. Et elle était arrivée, je crois, un an ou deux ans après. Et Pablo Neruda, entre-temps, était mort. Et bien sûr, nous présentons aussi cette lettre à l'exposition.
Donc, nous en venons, après l'accueil fait par votre père à tous ces poètes du monde entier, nous pouvons dire que Pierre Segers, lui aussi, a goûté aux joies de l'expression de l'écriture, l'expression littéraire, à ce champ poétique.
Je pense qu'il ne faut pas forcément dire après. Ça a été une aventure parallèle et c'est même avant. C'est même avant avec notamment Bonne Espérance, qui est un des premiers longs poèmes que Pierre écrit. mais l'expression de la poésie, l'écriture, Pierre, auteur, il l'a toujours été en parallèle, même s'il a peut-être eu plus de temps après avoir passé la main pour ses éditions. Mais pour revenir un instant à l'édition, et d'ailleurs à un sujet où il est à la fois éditeur et auteur, j'aimerais insister un instant sur la chanson, car Pierre a aussi ouvert les portes de sa maison aux chanteurs de ce temps, aux auteurs de chansons. Et il considérait vraiment que la chanson était sœur de la poésie, qu'elle était un média extraordinaire pour pouvoir porter la poésie, chanter au plus grand nombre, et qu'elle n'était pas un art mineur par rapport à la poésie. D'ailleurs, il ne considérait pas forcément que la poésie était de la littérature.
Non. Je pense que Pierre Segers aurait même été prêt à demander que l'on retirât la poésie du champ de la littérature pour la donner à la vie même. Voilà.
Et pour revenir sur un sujet qui concerne cette maison de l'Académie française, Pierre avait par exemple fortement défendu la candidature de Charles Trenet sous la coupole.
Votre père, Virginie, avait obtenu un prix de l'Académie française.
Il l'avait obtenu dès 42, ce qui est très étonnant parce qu'il était quand même assez méconnu. C'était un tout jeune homme qui s'était lancé dans l'édition, et en effet pour sa revue Poésie, Georges Duhamel à l'époque avait considéré qu'il méritait de recevoir un prix, et ce prix, d'après mes informations, lui a été très utile, car il a été, vous l'imaginez, ennuyé par la censure, par Vichy. Nous avons d'ailleurs quelques correspondances avec la censure que nous présentons à l'exposition, et le fait de pouvoir justifier d'un prix de l'Académie française était un bon paravent.
Alors, la poésie de Pierre Segers, que pouvez-vous, Bruno Doucet, nous en dire?
S'agissant de la poésie, je vais d'abord reprendre ce que vient de dire Virginie, à savoir que le premier recueil de Pierre Segers, publié en 1938 aux éditions de La Tour, donc sa propre maison, s'intitule « Bonne espérance ». Et je crois que ce titre est significatif parce que Pierre Segers, finalement, par la poésie, a toujours cherché à tenir ce cap de la bonne espérance. Même dans les périodes les plus sombres de notre histoire, comme pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans des périodes de sa propre vie parfois difficiles, la poésie est vraiment, je crois, ce qui permet à Pierre Segers de passer de l'ombre à la lumière, ou d'habiller de clarté des interrogations sur la vie qui peuvent parfois être tout à fait sombres. Voilà, la poésie permet de se tirer au clair, et je dirais même parfois de se tirer d'affaire. En tout cas, la poésie de la résistance a permis à une société tout entière de se tirer d'affaire. Il y a, à partir des années 50, dans l'œuvre poétique de Pierre Segers, la naissance d'un grand chant, un chant profond, un chant qui vient de loin, et un chant qui se construit de livre en livre. Cela commence avec un dialogue avec la photographe vénézuélienne Fina Gomez autour de ses photographies, le livre Racine, ses photographies de racines justement au Venezuela. Cela se poursuit avec un deuxième livre 2 ans plus tard, intitulé Pierre, les menhirs de Carnac et de Quiberon. Cela continue avec Dialogue, et puis il y a ce texte magnifique sur Piranèse, sur les carcéries de Piranèse et prisons imaginaires pour lesquelles Pierre Segers avait véritablement une fascination. Je dois dire aussi que Piranèse est écrit, me semble-t-il, exactement l'année où Marguerite Yourcenar écrit des États-Unis où elle vit le cerveau noir de Piranèse. Et autant Yourcenar nous entraîne sur la vision assez sombre d'un Piranèse qui explore les limites de la folie humaine, autant Pierre Segers voit justement dans ses prisons imaginaires de Piranèse une marque du génie de l'homme et de sa capacité à se défaire du joug des oppressions. Donc il a une lecture tout à fait intéressante de cette œuvre qui, en effet, peut paraître sombre au premier abord.
Alors, comme vous le disiez, Virginie Segers, votre père, Pierre Segers, fera entrer la chanson au panthéon de la poésie contemporaine, c'est ce que vous nous exprimiez tout à l'heure, et il publie de ce fait Léo Ferré, Brassens, Brel, Aznavour, Barbara, Guy Béard et bien d'autres, et leur consacre toute une collection poésie et chansons. Donc, il y a aussi des chansons comme Mère d'Avauban, mise en musique, interprétée par Léo Ferré, Le Voyou, La Voyelle, par Juliette Gréco.
Oui, ce sont deux choses un petit peu distinctes. Il y a à la fois la place qu'il accorde à la chanson au sein de ses collections, au point de dédier une collection à la chanson, et au point de subir de nombreuses critiques.
Des quolibets parfois, parce que par exemple le numéro 4 que vous évoquiez il y a un instant, le numéro 4 de la collection Poésie et Chansons, sur Charles Aznavour, a fait scandale.
Pourquoi ?
Parce qu'on considérait, donc, au début des années 60, que Charles Aznavour, c'était de la chansonnette, et Pierre Segers, clamait haut et fort l'appartenance de ses textes au grand chant de la poésie universelle.
Il a été critiqué aussi, je crois, avec Brassens et avec beaucoup d'autres. Donc, c'était un parti pris qu'il assumait et qu'il revendiquait même. Et puis, il y a Pierre, auteur de chansons. Et il écrit d'ailleurs dans la préface d'une anthologie de ses textes qui s'appelle « Le temps des merveilles », il dit à quel point il aime écrire des chansons et souvent des airs, alors qu'il n'est pas musicien, lui viennent en tête en même temps que coulent les mots. Il a écrit plus de 60 chansons qui ont été interprétées par des grands noms des interprètes français comme Juliette Gréco, comme Léo Ferret, comme Jacques Douai, Monique Morelli et beaucoup d'autres. Et il disait souvent qu'il avait presque plus le trac que quand il allait les voir sur scène. Il était souvent très impressionné par entendre ses textes chantés, mais il aimait ça.
Alors justement, la question qui vient à l'esprit, c'est que par rapport à cette ouverture, à ce chant magnifique ouvert par Pierre Segers sur la poésie, touchant à la chanson, touchant à des textes de résistance, etc. Quelle a été l'attitude, quels ont été les regards exprimés par le monde de l'édition à son encontre? A-t-il été compris? A-t-il été mis au banc des plus illustres maisons d'édition en France et en Europe? Comment ça s'est passé?
Il faut remettre tout cela en perspective dans le temps. Il est bien évident que pendant la résistance et dans l'immédiate après-guerre, Pierre Segers est vraiment considéré comme le plus grand éditeur de poésie en France et même au-delà. Il est l'éditeur des poètes.
Mais comment cette image s'est construite?
Alors, elle s'est construite nous l'avons un peu évoqué, par cette extraordinaire capacité d'invention qu'il avait, et puis surtout par cette façon étonnante qu'il a eue de rassembler autour de lui la grande famille dispersée dans le monde entier des poètes. Et puis cette capacité de découvreur des richesses insoupçonnées des poésies du monde. C'est après que les choses se transforment, c'est-à-dire lorsque Pierre Segers, dans les années 70, se rend compte qu'un tournant est en train d'être pris, que la génération qu'il a connue, celle d'Aragon, d'Éluard, de Cadou, d'André de Richaud, on pourrait en citer d'autres, de Pablo Neruda, etc., disparaît, et que la génération des fils s'attache ou s'acharne à perpétrer, je dirais, le meurtre symbolique du père, enfermant la poésie dans un laboratoire conceptuel dont elle ne ressortira guère que pour tirer à boulet rouge sur le lyrisme et l'engagement. Pierre Segers a tout à fait conscience, dans les années 70, que la poésie est en danger. Son ami André Fresneau dira sur France Culture que certains poètes se plaisent à écrire de purs combinatoires textuels et que ce ne sont plus des poèmes, mais des simulacres de poèmes. Et je pense qu'il écrit La Résistance et ses poètes au début des années 70 pour construire un phare. Tandis qu'il ne tient plus le gouvernail de sa maison d'édition, vendue à son ami Robert Laffont, pour alerter les poètes sur la nécessité de ne pas oublier, au fond, que les grandes poésies du monde, toutes les grandes poésies du monde, sont marquées par le double saut du lyrisme et de l'engagement. C'est-à-dire de l'expression personnelle, cette transformation d'un cri en chant et la dimension collective que tout engagement en poésie implique.
Pierre Segers nous a quittés en 1987, donc de 70 à 87, une période difficile, une période de résistance encore.
C'est une autre période de
ou
résistance,
alors
y compris sur le plan politique, vous savez, parce qu'il voit aussi ressurgir les démons du fascisme. Je pense qu'il a été très, très peiné, par exemple, du coup d'État de Pinochet en 73. Là, lui rappelle évidemment de très, très mauvais souvenirs.
Et de la montée du Front National plus tard.
Oui.
Pour revenir sur cette période, peut-être un tunnel par ses inquiétudes, mais pour avoir vécu cette période, ça n'était pas du tout un homme sombre. Au contraire, il avait enfin le temps de travailler à des œuvres majeures auxquelles il a consacré des années entières. On parlait de l'adaptation des poètes persans tout à l'heure, mais ce fut en effet les années de la résistance et ses poètes, avec de nombreux résistants déportés qui venaient à la maison. Ce fut aussi de longs poèmes ou des textes qu'il a écrits inspirés par des peintres. Je pense notamment à un long livre sur Victor Hugo, visionnaire, Les encres de Victor Hugo, mais aussi sur Monsieur Desiderio, sur ces architectures qui se décomposent, qui se fragmentent, qui inquiètent, mais qui ont aussi de la clarté. Ça a été aussi l'entreprise des festivals de poésie de la ville de Paris, où il a souhaité porter sur scène avec des musiciens, des comédiens, des chanteurs, et au travers de grandes projections sur des écrans géants, car il aimait bien aussi les nouvelles technologies. Tout cela l'intéressait beaucoup. Il aimait le livre, mais il aimait d'autres médias pour transmettre.
Il a réalisé des longs métrages.
Là, si je parle de la scène, c'était vraiment sur scène, au Châtelet, au Théâtre de la Ville, à la Comédie des Champs-Élysées, des spectacles, autant sur la poésie chinoise que sur la poésie russe, que un concept de galaxie faisant hommage à un poète, mais à tous ceux qui gravitent autour de lui.
Les jeunes, la poésie est l'an 2000.
Oui.
Également, dans les années 85.
Dans les années 80, voilà, il se projette en disant quelle sera la poésie de l'an 2000. Donc c'était un homme qui était toujours profondément rapide, ardent, curieux, avec cet esprit d'entreprise qui ne l'a pas quitté.
Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. Je la tiens pour essentielle à l'homme autant que les battements de son cœur. Pierre Segers, dans Le Temps des Merveilles. C'est une phrase donc qui nous est rappelée dans le cours de cette exposition qui se tient, on le rappelle, au musée du Montparnasse du 7 juillet au 7 octobre 2011. Et puis donc une exposition que l'on pourra continuer à vivre et à revivre grâce aux pages de votre ouvrage qui va sortir quand, Bruno?
Alors il sort au mois de juillet pour le musée et puis en septembre en librairie.
C'était une grande envie depuis longtemps de votre part.
Pour moi, bien sûr, oui. Oui, c'est un compagnon de route. Voilà.
C'est une page qui se tourne.
C'est une façon aussi de... Oui, c'est une page qui se tourne, peut-être, mais c'est, vous savez, je crois que les écrivains sont des gens qui savent payer leurs dettes pour ne pas finir comme ce personnage de Dickens en prison à vie avec des insolvables.
Virginie?
Sur le livre de Bruno, pour moi, sincèrement, il n'y avait que lui qui pouvait écrire ce livre aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit une page qui se ferme, mais plutôt une nouvelle aventure qui s'ouvre, et notamment avec sa maison d'édition au service des poètes d'aujourd'hui.
Une aventure que nous continuons d'ailleurs aux côtés de Bruno Doucet, puisque les auditeurs de Canal Academy ont eu l'occasion d'écouter ses voix du monde entier, francophone, ou ces voix d'ailleurs, et qui ont fait le choix de ce véhicule qui est la langue française pour s'exprimer.
Merci. Et n'ai-je pas eu d'ailleurs, il y a 2 ans, la joie d'enregistrer avec vous une émission que vous aviez appelée alors, Bruno Doucet, éditeur casqué.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà, bien, on continue aux côtés des poètes de la résistance. Merci Virginie Segers.
Merci à vous.
Merci Bruno Doucet.